Écoutez, je suis absolument ravi d'être là. Lorsque l'université d'été m'a proposé de faire une conférence autour de la musique, je me suis dit, quel thème aborder ? S'agit-il de commencer par un compositeur dans un cadre comme celui-ci, extrêmement politique ? J'ai pensé que une réflexion ou des pistes de réflexion sur musique et pouvoir pouvaient être une mise en appétit à l'échange, enfin je l'espère. On a commencé ici et avec le document que je vous ai photocopié, vous aurez toutes les références musicales que l'on va entendre. On a commencé effectivement en fanfare parce que j'ai axé sur deux thèmes essentiels cette présentation musique et pouvoir, autour de la réflexion des rapports entre les musiciens et les pouvoirs, et puis autour de l'opéra en même temps, qui est peut-être un des symboles du pouvoir, justement. Or là, c'est le premier opéra. C'est l'Orfeo de Monteverdi, on est en 1607, et ça commence, comme vous venez de l'entendre, comme un appel, comme une sorte de blason répété trois fois comme ça. On ne sait pas si on est au moment où le rideau va s'ouvrir, si on est au moment où des troupes vont défiler. Tout cela pose un certain nombre de questions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure au cours de cette présentation. Alors, musique et pouvoir, on pense généralement au pouvoir de la musique, je trouve, plutôt que musique et pouvoir. Le pouvoir de la musique qui est celui que l'on ressent, hein, chacun. Alors ça, c'est intime, c'est personnel, c'est l'émotion, c'est la façon dont ça vous accroche ou pas, hein, que ce soit un thème musical ou un thème traité en musique par des paroles, des mélodies ou des opéras. Mais le rapport entre la musique et le pouvoir, là, c'est un vaste programme, donc je me suis vraiment réservé un certain nombre de petites pistes. Je n'ai pas voulu vous entraîner, comme a priori on aurait pu le faire, hein, université d'été du PCF, on se dit, allez, allons-y franchement, musique et stalinisme, musique en URSS, ou bien musique du côté du Troisième Reich et il y a des choses à faire, pourquoi pas prochaine, qui sait, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas dans ce sens-là que je me propose d'aller avec vous, plutôt avec ces trois moments, hein, que j'ai signalé, le pouvoir comme initiateur et mécène, la coupure de la Révolution française et tout ce que ça change, tout ce que ça amène, comme réflexion, pas seulement musicale, mais vraiment politique aussi, et puis quelques réflexions sur le gouvernement des hommes à partir de trois exemples musicaux, trois opéras précisément. Et si j'ai choisi l'opéra, c'est parce que lorsque l'on m'a proposé cette intervention, je venais de rencontrer la veille Philippe Jordan, qui est l'actuel directeur musical de l'Opéra Bastille. Philippe Jordan qui a écrit un petit bouquin, que sais-je, sur les 100 mots de la musique, qui est vraiment intéressant, et on discutait de ça. Et puis je lui disais, mais il y a un mot qui manque dans votre livre, c'est le mot populaire. Vous avez le mot pouvoir, mais vous n'avez pas le mot populaire. Et il me dit, oui, effectivement. Et donc je l'interrogeais sur qu'est-ce que c'est qu'un opéra populaire pour Philippe. Et alors, il était extrêmement surpris. Il ne savait pas qu'à l'origine de l'Opéra Bastille, François Mitterrand et le gouvernement de gauche avaient souhaité que ce soit un opéra populaire. Il ne le savait pas. Je trouvais ça extrêmement emblématique de la dérive de quelque chose qui était présenté à l'origine comme, à Bastille, l'opéra populaire par excellence, avec des places pas trop chères, dont on a vu le prix des places exploser, notamment depuis une quinzaine d'années. Et puis le fait que l'actuel directeur de la musique, c'est quelque chose, il voulait effectivement un public large, il a une politique extrêmement intelligente, mais vraiment ça lui avait échappé. Donc je trouvais que ça questionnait. Ça questionnait d'autant que depuis que Nicolas Joël est arrivé à la tête de l'Opéra Bastille, il y a quelques années, comme le disait son prédécesseur en partant, il disait, ça va être le temps de, il n'a pas dit la réaction, ça va être le temps du retour à l'avant. Et bien ça a été vraiment la réaction. Pourquoi la réaction ? Premier programme dans Mireille de Gounod, premier spectacle présenté par le nouveau directeur de l'Opéra Bastille il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un article signé Brasillach. Et ça, c'est vraiment une réaction, et pas seulement, je dirais, ce qu'avaient pensé les gens à l'époque en se disant « bon, ça sera peut-être davantage plan-plan, moins innovant ». Donc, un article de Brasillach, et ça n'a été relevé par personne. C'est devenu quelque chose de commun. Et on a vu au fil des programmes de l'Opéra Bastille se développer un certain nombre de portes ouvertes pour des gens qui, jusque-là, n'avaient plus le droit de citer depuis 1945, depuis ce qui s'était passé. Et voilà, c'est rentré comme ça dans les habitudes, on n'y a pas fait attention. Donc je me suis vraiment interrogé, je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est clairement un lieu de pouvoir que cet opéra. Une restauration, hein, mais plus encore une réaction qu'une restauration. Alors, l'autre exemple, c'est un événement auquel, un événement incroyable dans sa richesse, sa munificence, qui a eu lieu mi-juin dernier à l'Opéra de Versailles. Toute une soirée consacrée à Cecilia Bartoli, voulue par Cecilia Bartoli, on lui a donné les clés, en quelque sorte, on lui a dit bah, « fais le programme que tu veux ». Et elle a commencé par faire une soirée qui commençait à 20h à l'Opéra Royal de Versailles, le Petit Écrin. Je vous en reparlerai de l'Opéra Royal, c'est pour ça, hein, je suis en train de semer des petits cailloux comme ça. À l'Opéra Royal, ça commençait par un vrai spectacle, ça aurait pu s'arrêter là, près de 2 heures après, Bartoli avait chanté et c'était extraordinaire. Entracte, on emmène tout le public à la chapelle de Versailles, deuxième concert, une heure, grandeur de concert. Re-entracte, on emmène tout le public à la Galerie des Glaces et bis, fête qui se termine par feu d'artifice à l'extérieur de la Galerie des Glaces, une soirée pour les Happy Few. Par exemple, première catégorie, 500 euros la place. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'opéra? Qu'est-ce que c'est que l'opéra populaire? Où est-ce qu'a la place de la musique? Et quel rapport entre musique et pouvoir? On est très très loin ici de la coupure de la Révolution française dont on parlera tout à l'heure, et puis on est très loin de ce qui se passait avec la Commune de Paris. Parce que c'est vrai que je me suis aussi interrogé, je me suis dit, tiens, je pourrais vous proposer la vie musicale et la Commune de Paris. Ça paraît bizarre, vie musicale, mais il s'est passé tellement de choses pendant la Commune de Paris. Pas seulement ces jours qui ont ébranlé le monde, on le sait, et puis, mais sur le plan musical, il y avait une vraie politique, une politique populaire, d'ouvrir des concerts immenses aux Tuileries, de faire appel aux plus grands artistes de l'époque pour des manifestations publiques qui étaient un petit peu dans l'esprit de celle de la Révolution française, justement. Alors là, avec ce que je viens de vous dire sur l'aujourd'hui et maintenant, les problèmes se posent tout à fait différemment. Sans parler du poids de l'État, du rôle de l'État, de qui commande des œuvres, qui paye l'opéra, qui paye les structures musicales, comment on en arrive là où nous en sommes. Alors, pour commencer, je vous propose de voir comment le pouvoir est initiateur et mécène, mais alors ça remonte à la nuit des temps. Évidemment, je ne sais pas du tout quels sont vos connaissances et vos intérêts en musique. Peut-être que je vais enfoncer les portes ouvertes pour un certain nombre d'entre vous, je suis désolé de le faire si c'est le cas. Mais enfin, quand même, le premier des commanditaires, le premier des pouvoirs, c'est l'Église. Ce fut l'Église, hein, dès le Moyen-Âge, qui a dicté en quelque sorte un certain nombre de canons musicaux, parce que tout le travail musical qui est à l'origine, je dirais, de toute la réflexion, de toute l'invention musicale occidentale, du monde occidental, vient de là, vient de l'Église. Et l'Église, ça veut dire une Église commanditaire à tous les sens du terme, qui commande des œuvres, parce qu'il faut chanter la gloire de Dieu, mais en même temps qui impose des formes, en quelque sorte, qui met les femmes à l'écart très rapidement, dès le Moyen-Âge, les milieux du Moyen-Âge, ce sont les hommes qui vont chanter. Et puis on va le voir que, par exemple, au XVIIe siècle, les femmes n'ont plus du tout le droit de chanter. C'est redit après la contre-réforme, et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la création musicale et sur le type de voix que l'on va aussi développer. Alors, j'ai souhaité comme ça, de temps en temps, vous mettre dans quelque ambiance musicale. Ça va peut-être vous décaler complètement, hein, vous faire rêver, j'espère, et puis en même temps voir qu'il y a des diversités absolument incroyables et des surprises. Jamais je n'aurais pensé que dans une université d'été du PC, je serais amené à vous passer des chants religieux qui vous font planer comme ça. Vraiment, vous pourriez dire c'est de la provocation. Non, non. Et j'ai choisi ça parce que vous entendez le chant. Mais le chant qui n'est pas polyphonique, hein, homophonique, et en dessous, un bourdon, exactement. Donc on est là aux racines de traditions médiévales profondément religieuses, profondément chrétiennes, catholiques. Pour chanter la bienheureuse Marie, la Vierge. À partir du moment où, dans la société féodale, on a ces trois ordres, hein, le clergé, ceux qui prient, ceux qui combattent la noblesse, et puis ceux qui travaillent les autres, qui deviendront plus tard le tiers-état, on a cette église qui dirige tout, qui commande tout, et qui commande donc des œuvres musicales, et qui va, comme ça, permettre au fil des siècles un développement absolument incroyable de la musique occidentale. C'est quand même à Paris que s'est créée au XIe siècle une école, l'école qu'on appelle l'école de Notre-Dame, au XIe, XIIe siècle, qui va commencer à faire travailler, faire imaginer les créateurs et les intellectuels, hein, autour de comment noter la musique et comment arriver à varier ce que l'on vient d'entendre et l'invention de ce qui va être petit à petit la polyphonie. Donc ça, c'est en lien très très direct avec le pouvoir ecclésiastique qui cherche la façon la plus belle d'atteindre par la musique la Jérusalem céleste, autrement dit, ce qu'il y a après la mort, le royaume de Dieu qui serait évidemment lumineux. Et pour être lumineux, il faut porter les âmes, il faut emmener les gens vers quelque chose, justement, qui soit musicalement totalement lumineux. Et ce qui va donner des combinatoires, d'où le travail aussi sur la musique et les mathématiques dès ce moment-là, et ce qui va donner tout un répertoire, mais avec que l'on ne peut pas ici évoquer en quelques instants, mais simplement des formes aussi, des chants religieux bien sûr, alors soit à une voix, soit à plusieurs voix, et puis petit à petit les instruments vont s'y mêler, et à partir vraiment de, je dirais, du 15e siècle, de la fin du Moyen-Âge, on va voir une rupture. Et cette rupture, elle est liée très précisément à l'histoire, elle est liée à la réforme qui arrive en 1517 et qui va se développer au XVIe siècle. Et tout cela va avoir des conséquences musicales absolument foisonnantes. C'est-à-dire que la réforme protestante va, je dirais, annexer certaines formes musicales, mais surtout la contre-réforme catholique va vouloir inventer quelque chose. En disant, on est arrivé à un degré de polyphonie qui est pas du tout ce que l'on vient d'entendre, mais de complexité musicale. Pendant des siècles, s'est développée une complexité musicale. Ce qui fait que les gens, lorsqu'ils allaient à l'office, à la messe, ou lorsqu'ils entendaient des cérémonies religieuses, on pouvait même plus comprendre ce qui était chanté, tellement la subtilité de l'art subtilior, comme on disait au XIVe siècle, un art extrêmement subtil, mêlait les voix, mais les voix qui disaient des prières, ben on ne comprenait plus. Et le clergé catholique, au XVIe siècle, s'interroge en se disant, est-ce qu'il ne faut pas revenir à quelque chose de compréhensible ? Parce que les protestants, eux, disent, on ne comprend rien, il faut que le peuple comprenne ce que l'on dit quand on parle de Dieu. Et le catholicisme fait un petit peu la même chose, si vous voulez. Du coup, à partir du XVIe siècle, il y a tout un travail théorique qui se fait autour de nouvelles formes musicales. Et ça, c'est vraiment le clergé qui en est à l'origine. Les clergés ou les structures religieuses pour les protestants, avec leur façon de travailler sur les chorales de Luther et puis d'inventer d'autres choses. Et il y a des mixités musicales et d'origines extrêmement nombreuses. Par exemple, la musique italienne va influencer la musique allemande, va être à l'origine de la création de la musique allemande. Mais on a des racines franco-flamandes qui se mêlent à la musique italienne, dans la musique du Royaume de France. Il y a comme ça il n'y a pas de frontière en musique. Pas de frontière au sens politique du terme. Hein. Ça, c'est très important. Mais il y a des frontières religieuses. Des frontières et des nouvelles frontières. Parce qu'effectivement, d'un côté, il y a le développement de formes comme, l'oratorio, ça va se développer à partir du XVIIe siècle. Comment mettre en musique et faire comprendre des histoires bibliques, donc que ça puisse être à la portée de tout le monde, que l'on puisse initier tout cela. Et puis en même temps, toutes sortes d'œuvres religieuses, bien sûr les messes, alors là, vous avez des centaines et des milliers de messes au répertoire musical qui se développent pendant ces centaines d'années. Je disais, deux nouvelles frontières, parce qu'évidemment à partir du moment où en 1492, ça vous dit peut-être quelque chose, on découvre l'Amérique, il va y avoir là aussi une influence du pouvoir ecclésiastique sur tout ce nouveau monde, ou tous ces nouveaux mondes, via le catholicisme qui se développe dans l'Amérique espagnole, dans l'Amérique portugaise, et alors ça va avoir des conséquences absolument incroyables pour tout ce qui est vie musicale dans les Amériques, précisément. D'une part, on importe des traditions, une culture bien sûr, mais avec cette culture, pour la faire passer auprès de gens qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas du tout le même passé, pas du tout le... Eh bien, que font les catholiques qui arrivent ? Immédiatement, ils investissent l'Amérique avec des instruments et avec des formes musicales, y compris en acceptant que les langues vernaculaires, les langues comme le quechua, par exemple, au Pérou, les langues mexicaines, utilisent dans leur propre registre les prières, et voilà ce que cela donne par exemple en musique. Une des œuvres qui date avant 1635, on l'a sur partition en 1635, voilà ce que cela donne. Des fois on se demande avec ces musiques du Nouveau Monde si on est vraiment dans le catholicisme ou dans la musique profane. Est-ce qu'on va danser ou est-ce qu'on va prier ? Ben, c'est les deux qui se rejoignent, et ça, c'est le syncrétisme catholique qui a bien compris ça. Le pouvoir catholique, par la musique, va pouvoir instiller une religion et se développer, que ce soit dans l'Amérique espagnole ou l'Amérique portugaise. Vous entendiez un petit extrait qui vous donne envie de danser, ou bien une procession. J'ai choisi ça parce qu'on est vraiment du côté de la, la procession péruvienne des Chaussemelles. Autre exemple, on passe de la fête à la procession elle-même. Avec ça, d'abord le fait que ça existe, qu'on en ait une trace écrite par les partitions, je vous dis édité en 1635, donc ça veut dire que dès la fin du XVIe siècle on changeait. Mais d'où vient cette musique? Est-ce qu'elle est péruvienne d'avant la conquête? Est-ce qu'elle a été reprise par les jésuites? Enfin, il y a tout un syncrétisme qui se fait musicalement. Il est difficile de voir où sont les racines. Ce qui est très clair, c'est de voir qu'il y a une volonté de pouvoir ecclésiastique d'imprimer sa marque. Parce que qu'est-ce qu'on chante ici? Joie du ciel, je t'adore mille fois, fruit précieux de l'arbre fécond, espérance qui encourage et vient en aide aux hommes, écoute ma prière, et ça s'adresse à la Vierge Marie, mais c'est en quechua. Voyez. Donc le pouvoir qui va jusqu'au tréfonds des racines populaires ici. Et puis l'autre chose intéressante, je trouve, c'est que cette musique-là est retrouvée depuis une vingtaine d'années, retravaillée, remise, non pas à l'ordre du jour, mais il y a eu tout un travail de fait après la mode baroque des années 70-80. On est allé du côté de l'Amérique du Sud. Mais il faut des moyens pour ça. Et là, quels sont ces moyens? Il faut des moyens financiers, parce que ça a été extrêmement coûteux de mettre en place des missions musicales, hein, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'on a envoyé des gens remettre en état les orgues des églises, retravailler sur des instruments, des nouveaux facteurs d'instruments, former les gens, que ce soit au Pérou, au Mexique, au Paraguay, etc., à une tradition musicale qu'ils avaient perdue. Tout ça nécessitait une véritable infrastructure dans les années 90-2000. Le clergé catholique a des moyens, et il s'en est donné les moyens. Et il y a des financements privés de la part des banques. Hein, je pense que la BNP Paribas, par exemple, a financé tout ce qui était ce qu'on appelle les chemins du baroque et qui ont donné la création, comme cela, non seulement de disques, mais vraiment d'événements, et puis je vous disais, d'une vie musicale qui a repris en une vingtaine d'années. Donc là encore, on est au cœur de cette problématique de musique et pouvoir. Comment revivifier quelque chose qui avait complètement disparu, hein, il faut être très très clair. On est dans le rêve de Fitzcarraldo, si vous connaissez le film de Werner Herzog, là, de ce type qui a envie de construire un opéra dans la jungle, et bien c'est ça qui s'est refait finalement. Hein. Et ça revivifie toute la vie musicale des Amériques du Sud depuis une vingtaine d'années. Alors, pour autant, revenons dans notre vieux continent, où, pendant qu'il se passe ce que vous venez d'entendre en Amérique du Sud, dans le vieux continent, c'est quand même la période extrêmement harde des guerres de religion, où sera le domaine de la réforme et le domaine de la contre-réforme. Et le rapport avec la musique, il est extrêmement étroit. Parce que je vous le disais tout à l'heure, la contre-réforme catholique, là, avec le concile de Trente qui se termine en 1563, tout ça, ça va non pas figer, mais ouvrir des réflexions musicales nouvelles. Ouvrir des réflexions, donner des styles musicaux. On va créer l'oratorio, je vous l'évoquais, mais par exemple, à la fin du XVIIe siècle, on va se dire, on ne veut plus de femmes pour chanter dans les églises, et on va inventer quoi ? Les castrats. Donc, s'il y a eu les castrats, s'il y a eu ensuite tout le répertoire qui a dépassé le répertoire musical, parce que les castrats ont eu leur heure de gloire au XVIIIe siècle dans l'opéra, mais c'est parce que l'Église a pris des décisions terribles. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient castrées, et il y en avait quelques-uns qui pouvaient faire une carrière, finalement. Je vous ai apporté un document assez étonnant, peut-être que si vous aimez la musique, vous connaissez ce document. Ce document, il date de 1904, et c'est... Je ne vous en dis pas plus, je vous le propose à l'écoute, et vous allez peut-être imaginer ce que c'est. Si le document date de 1904, il nous replonge dans un passé des années 1600, 1700, 1800, avec ça. Pas avec ça, excusez-moi. Évidemment pas. Maria, on se dit, bon, ah, Bach, Gounod, Bach, la réforme, Gounod, le catholicisme, mais... Le dernier castrat qui ait vécu, il avait une cinquantaine d'années en 1904, donc vous voyez, il y avait encore des castrats au milieu du 19e siècle. Les castrats étaient un petit peu la gloire de la chapelle pontificale, de la chapelle Sixtine, c'est là qu'ils chantaient, les castrats, en pleine gloire religieuse, mais avec un anonymat, c'est ailleurs qu'ils étaient célèbres. Mais voilà, donc... Pour signaler à quel point le pouvoir peut avoir prise sur les corps, et de quelle façon. Pour signaler aussi que l'Église catholique a donné des interdits artistiques qui ont eu des conséquences musicales. Et d'ailleurs, c'est... Mais alors là, c'est un autre genre de question qui nous met face à des abîmes de réflexion. Quand même... C'est étonnant de voir que la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on a une passion, semble-t-il, pour ces voix perdues, ces castrats qui n'existent plus, mais alors du coup, on fait appel au contre-ténor, depuis Alfred Deller jusqu'à Jarouski, pour ne pas le citer, par exemple. Donc, les contre-ténors sont devenus une sorte de voix d'ange, comme si on était dans le mythe de... Ce pouvoir de recréer quelque chose qui n'existe pas, qui... c'est quand même surprenant tout ça. Alors je vous disais, l'Église est commanditaire, je vous le dis beaucoup trop rapidement sans doute, mais il y a un autre pouvoir qui a été essentiel, c'est le pouvoir de l'aristocratie. Voilà, l'aristocratie qui se fait applaudir à côté. Non, décidément... Rome n'est plus dans Rome. L'aristocratie qui a toujours été à l'avant-garde musicale. Je ne vais pas du tout développer, parce que là aussi, il faudrait des heures, mais je prendrai juste l'exemple du tout début de ce petit moment que l'on passe ensemble, lorsque je vous ai fait entendre les premières notes de la toccata et de l'opéra L'Orfeo de Monteverdi. L'Orfeo de Monteverdi, la création de l'opéra en 1607, c'est pour le duc de Mantoue que ça s'est fait. Donc il faut imaginer une richesse fabuleuse de quelqu'un qui avait dans sa cour un musicien qui était quand même pas un mauvais, Claudio Monteverdi. Il s'est payé les offres de ce musicien et il lui a dit « Bon ben voilà, j'ai envie de m'amuser ». Et pour s'amuser, ils ont créé l'Orfeo de Monteverdi en février 1607. Quand je dis « ils ont créé », c'est que sur scène, il y avait les gens de l'aristocratie de Mantoue qui chantaient et qui étaient à la fois au spectacle, bien sûr, mais certains étaient sur scène. Ce qui veut dire un investissement financier, mais un investissement intellectuel aussi, humain, très important. Et je trouve que ça, c'est extrêmement symbolique. L'opéra est né comme ça, d'un art aristocratique. Ensuite, mais beaucoup plus tard, on a ouvert à Venise, au début du XVIIIe siècle, un opéra populaire, un opéra pour le public. C'est dans les années 1730, on ouvre le premier opéra pour le public. Mais avant, l'opéra est réservé à l'aristocratie, aux membres vraiment d'une élite financière et d'une élite de la société. Quand on pense à la pratique musicale de ces années-là, évidemment l'aristocratie, que ce soit dans n'importe quel pays d'Europe d'ailleurs, ou pour prendre le cas de la France du côté du XVIIe siècle et de Louis XIII, Louis XIV, l'aristocratie, à ce moment-là, ce sont des gens qui veulent à tout prix connaître la musique et la pratiquer. Et on pratique la musique, je dirais, au plus haut niveau de l'État et au plus haut niveau de la technique musicale aussi. C'est qu'il ne faut pas croire que ces gens-là, c'était des amateurs qui jouaient un petit peu de clavecin, un petit peu de luth, trois notes de flûte traversière ou de flûte baroque à bec. Non, c'était vraiment des gens qui prenaient des cours avec les meilleurs musiciens, avec les meilleurs spécialistes, voire avec les meilleurs compositeurs. Il suffit de penser que Gluck, le compositeur Gluck, ou Grétry, dont je reparlerai tout à l'heure, ce sont des compositeurs qui ont donné des cours à la jeune Marie-Antoinette, par exemple. Gluck à Vienne et Grétry donnaient des cours de clavecin ensuite à Paris. Donc on est là avec des gens qui cherchent la pratique, et ce n'étaient pas des mauvais, que ce soit les aristocrates ou justement les gens qui font partie du cercle royal le plus proche. Voilà, et ces gens-là commandent des œuvres. Et ces gens-là se payent les services de musiciens. Et les musiciens cherchent absolument à avoir une rente à vie ou une bourse ou enfin avoir de l'argent de la part des aristocrates. Et c'est comme ça qu'ils peuvent créer des œuvres. Je pense à Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier qui, au XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, va travailler, apprendre son métier à Rome, c'est-à-dire du côté du centre du catholicisme, évidemment, avec les meilleurs compositeurs italiens qui composent pour le pape et pour la curie romaine et pour les grandes églises romaines. Il y va parce qu'il est financé par la maison de Guise, qui lui paye ce voyage pendant des années, pour ensuite, une fois revenu en France, à Paris, que Marc-Antoine Charpentier compose pendant des années pour ses aristocrates. Donc voilà comment se tissent les liens entre musique, musicien et pouvoir au plus haut niveau de l'aristocratie. Il y a cela, et puis il y a la royauté. Parce que parlons un petit peu du cas français et de la royauté française. C'est très intéressant de constater que les rois, puisque je vous parlais de Louis XIII et Louis XIV par exemple, ce sont des rois musiciens. Louis XIII était un excellent luthiste. Il avait appris le luth et il travaillait le luth avec les plus grands luthistes de la période. Donc, il aimait jouer du luth, mais pas pour la montre, pas pour faire celui qui sait, ou c'est pas du tout le genre Sarkozy au petit pied, hein. Non, non, c'est vraiment un sens aristocratique de la musique et en même temps un sens intérieur, si vous voulez. Il y a cela, et puis le fils, le petit Louis XIV, le petit Louis, ben lui, contrairement à son père, il délaisse le luth, et parce que le père joue du luth, lui, il va jouer de la guitare. Et il va entraîner une mode de la guitare absolument incroyable. Mais c'était un très bon guitariste. Louis XIV, le jeune Louis XIV, non seulement était guitariste, mais il était danseur. Le roi danse, et ça, c'était pas rien. C'est-à-dire que jusqu'au moment où il a pris le pouvoir en 1661, il a continué à danser dans les plus grands ballets, avec les pas les plus complexes qui soient. Donc c'était un esthète, si vous voulez, mais en même temps un très grand artiste. Ouais, quelque chose d'assez surprenant. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas eu des dirigeants qui soient à ce point des musiciens, des artistes, des intellectuels? Bon, j'en dirai pas plus. Mais ça, c'est intéressant de voir comment les rois de France, pour s'en tenir au Louis XIII, Louis XIV, par exemple, ont initié, ont vraiment irrigué la vie musicale française parce qu'eux-mêmes en étaient partie prenante. Et Louis XIV, on le sait, lorsqu'il était jeune, faisait les 100 coups avec un de ses amis italiens qui s'appelait Jean-Baptiste Lully. Et il a donné à Lully tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir que l'opéra ne sera créé qu'à partir du moment où Lully créera l'opéra. Il avait vraiment le pouvoir absolu sur l'opéra. Mais pourquoi l'opéra? Parce que Louis XIV s'est dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, l'opéra, c'est une forme en devenir, il se passe des choses, mais ça serait vraiment très très bien que l'opéra, on puisse en avoir un à la française, à la gloire de la royauté, de la France royale, lumineuse et ensoleillée de Louis XIV. Du coup, effectivement, dans les années 1660-70, Lully a créé un genre, l'opéra français, il n'a pas été le seul, et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'opéra, c'est un peu comme dans la tragédie de Racine, Corneille, cinq actes. Toujours à l'époque, il y a cinq actes, avec le climax du troisième acte, avec le déroulement tragique au cinquième, mais cinq actes, et avant, il y a un prologue. Tout le temps, dans les opéras de la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, toujours un prologue. Et qu'est-ce qui se dit dans ce prologue? Moi, je vous ai choisi un exemple. Celui de la Médée de Charpentier. Médée, on se dit, l'histoire de Médée, bon... Oui, mais le prologue, voilà ce que cela donne. C'est comme ça que ça commence l'opéra. Louis est triomphant. Or, c'est d'autant plus intéressant que je ne vous ai pas choisi ici un extrait de Lully, le compositeur fétiche de Louis XIV. Généralement, maintenant, les musicologues vous disent « Charpentier, il était sur la touche et tout ». Marc-Antoine Charpentier commence son opéra à la gloire de Louis XIV comme ça, et on reprend en chœur. Vraiment dans la cour, dans 1695. Bon, c'est frustrant, hein, peut-être. Ah, oui, écoutez, pour moi, je peux vous assurer que c'était frustrant aussi. Mais tant mieux, parce que si vous êtes frustré, vous reviendrez. Ce qui va être frustrant, c'est qu'on va passer, enfin, pas frustrant, autre, c'est que je vous propose de passer à une période et une problématique tout à fait différente, mais où tous que j'évoquais jusque-là se tisse et se casse en même temps, se redistribue autrement, avec le cas révolutionnaire. Parce qu'évidemment, là, on était Louis et triomphant, mais... et à un moment, ça bloque un peu. Hein. Et en 89, bon, je ne vous fais pas l'article, vous savez, Je pense à l'abbé Grégoire qui disait « Les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre physique ». Ça donne le ton pour la période de 1789 et la période révolutionnaire. Alors là, je vais vous parler d'un certain nombre de choses sans vous faire entendre de la musique de la Révolution. C'est un choix parce que je pense que c'est très compliqué. J'avais tellement de choses à vous faire entendre et en même temps, je suis sûr qu'il y a des musiques qui vont vous trotter dans la tête. Par exemple, si je vous parle de la Carmagnole, quelque part, vous devriez avoir quelques idées musicales. En août 1792, c'est-à-dire au moment de la chute de la royauté, le 10 août, hein, on a une Carmagnole qui dit ceci. Il faut raccourcir les géants et rendre les petits plus grands, tous à la même hauteur, voilà le vrai bonheur. Bon, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué jusque-là, on voit que la problématique, elle est un peu en train de se déplacer, disons, hein, légèrement. Je voudrais prendre quelques exemples, vous donner quelques pistes avec quelques noms de musiciens. Mozart, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous allez dire, oui, mais enfin, Mozart, il n'est pas français, il n'est pas révolutionnaire, oui. Enfin, à l'été 89, au sens large, l'été 89, ce n'est pas inintéressant parce que Mozart, au mois de mai exactement, 1789, joue devant Frédéric Guillaume II de Prusse, le roi de Prusse. Encore musique et pouvoir. Parce que, évidemment, si on prend Mozart, on peut se dire... Mozart à Salzbourg, sans l'archevêque Colloredo, sans l'église, il n'était rien. Le père de Mozart n'était rien non plus. Donc l'église soit accordait de l'argent et à ce moment-là, le compositeur composait pour soit retirer l'argent et qu'est-ce qu'on faisait, hein? Ça a été toujours le grand problème de Mozart à qui Colloredo lui disait moi je voudrais une messe, moi je veux ceci, je te paye, c'est pas pour rien. Donc bon. Et Mozart, quelques semaines après, en juin 1789, il compose à Vienne un quatuor qu'il va dédier au roi de Prusse. Là, on voit bien qu'on est, pour Mozart, dans la dépendance par rapport à l'aristocratie et par rapport à la royauté, au roi de Prusse. Mais si je vous dis ça, c'est parce que les choses sont compliquées. Pourquoi ? On sait que quelques années avant, il a mis en musique les Noces de Figaro. Qu'est-ce qui est dit dans les Noces de Figaro ? Quel est le fameux monologue de Figaro ?
Je ne peux plus servir.
Voilà, par exemple. Et puis, moi je reprendrai les mots exacts de Beaumarchais, que Mozart a repris au début de son troisième acte. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Ça, c'était Beaumarchais, prémisse de la Révolution, mis en musique par Mozart. Et donc Mozart, en mettant les Noces de Figaro en musique, mais face à la cour de Vienne, face, même si ce n'est pas créé à Vienne, mais ça explose. Voilà, c'est de la dynamite à l'intérieur d'un système qui se décompose en quelque sorte. La même année que la Révolution, je veux dire. La même année que la création des Noces de Figaro, Grétry, je vous parlais de Grétry, c'est peut-être un compositeur dont vous connaissez vaguement le nom, mais bon, on en retient un peu de choses maintenant. Grétry, lui, a composé une œuvre qui s'appelle Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, ça nous plonge au cœur du Moyen-Âge, mais il y a un air dans son opéra qui a un rôle très particulier. Cet air s'appelle « Ô Richard, ô mon roi ». Il faut imaginer que nous sommes à Versailles le 1er octobre 1789. Donc si je vous dis la date, vous voyez, la Révolution est déjà commencée à Versailles. On est à Versailles dans l'Opéra de Versailles. Et à l'Opéra de Versailles, ce soir-là, il y a dirais, une soirée avec un grand dîner organisé par la reine, par le clan du roi et avec des officiers. Et qu'est-ce qu'ils chantent à la fin du dîner ? Ô Richard, ô mon roi, et ils le remplacent par ô Louis, ô mon roi. Et cette air d'un opéra de Grétry devient du jour au lendemain le symbole de la contre-révolution. Dès que l'on apprend ça à Paris, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, immédiatement la foule se regroupe. 5 octobre, 4 jours après, les femmes et les hommes de la Révolution arrivent à Versailles et exigent que le roi et la reine reviennent à Paris. Voilà. Un exemple de cette relation étrange entre musique et pouvoir. Comment un air d'un opéra de Grétry, qui était le compositeur, un des compositeurs chéris de Marie-Antoinette, comment ça devient justement l'emblème de la contre-révolution et que ça accélère la révolution. Hein. Et que, effectivement, à partir de là, la foule parisienne marche sur Versailles. Et... Alors, les musiques en révolution, on sait bien que l'ancien régime s'écroule, ça on le sait. On sait aussi que les institutions musicales qui étaient mises en place par la royauté ou par l'Église explosent. Le concert spirituel, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais le concert spirituel qui était une organisation de concerts spirituels, vous voyez, il y avait toujours quelque chose en lien avec la religion, pas avec l'humour, un peu d'humour, mais enfin pas tant que ça. Ils organisaient des concerts très très régulièrement, mais très souvent toute l'année. Eh bien, ce concert spirituel qui était une œuvre à la fois de la royauté et forcément liée à la religion, explose en vol. C'est fini. Il n'y a plus de concert mis en place par le concert spirituel. Il va falloir trouver d'autres formes. Petite parenthèse, ce n'est peut-être pas un hasard si un des ensembles baroques d'aujourd'hui a choisi comme nom le concert spirituel, dirigé par Hervé Niquet. En relation avec, je dirais, oui, une certaine foi, en tout cas, pour rester dans ce domaine-là. Mais en même temps, un retour au passé. Il faut être très clair, dans le monde musical, le monde baroque, on assiste, on le sait, depuis une cinquantaine d'années, à une révolution baroque avec une reprise des œuvres qu'on avait oubliées, etc. Mais tout cela vient d'un mouvement de regret de ce qui était avant 89, d'un mouvement de constat que 1789 a rompu avec des traditions, a cassé tous les chœurs religieux, tout ce qui était chorale d'église, tout ce qui a été fait contre les orgues pendant la révolution en 92-93, au moment de la déchristianisation, un nombre d'orgues absolument incroyables ont été détruits ou alors ont été laissés en l'état parce que c'était le symbole de l'oppression du clergé, par exemple. Depuis 30, 40, 50 ans, certains se disent, il faut revenir là-dessus. Hein. C'est inacceptable ce qui s'est passé en 1789 musicalement, la rupture. Et d'ailleurs, tout vient d'un livre écrit il y a plus de 50 ans par Nicolaus Harnoncourt, le pape, comme on l'appelle, de la musique baroque, qui met en cause très clairement la Révolution française, en présentant l'œuvre de retour au baroque comme une œuvre contre-révolutionnaire, anti-révolutionnaire. Ça, c'est très intéressant dans la réflexion, et dans la réflexion sur musique et pouvoir, et enjeu politique que ça veut dire. Alors, je reviens à la Révolution et à ce qui change avec la Révolution. Voilà ce que je voulais vous citer, c'est que un autre compositeur dont je voudrais parler un petit peu, qui s'appelle Gossec, qui était un compositeur qui avait fait parler de lui, Marie-Antoinette l'aimait bien, l'aristocratie le connaissait bien, il avait déjà bien écrit avant 89, Gossec écrivait ceci au tout début de la Révolution. Pour un temps, la musique n'apparaît donc plus comme l'art frivole de l'Ancien Régime. Les musiciens exercèrent leur talent plutôt en citoyens qu'en artistes. La musique, sortie des églises et des salons, devint un art social, considéré comme moyen de gouvernement et doué du privilège merveilleux de faire éprouver à une foule la même impression. Cette conception est chère à Condorcet et à Mirabeau. Le conventionnel Daunou l'exprime dans son rapport sur la musique qui captive la volonté, fanatise l'imagination, fait bouillonner les passions humaines, imprime à des multitudes des affections simultanément unanimes et met, pour ainsi dire, en accord d'innombrables volontés. Alors vous voyez comment on passe là à une autre conception, vraiment c'est les lendemains lumineux grâce à la musique. Gossec qui cite cela. Et c'est intéressant parce que Gossec était, avant la Révolution, un protégé de la Pouplinière, un proche du prince de Conti, du prince de Condé, de la famille royale, donc, vous voyez, au cœur de l'aristocratie. Il va prendre fait et cause pour la Révolution et écrire des œuvres révolutionnaires. On a besoin d'autre chose maintenant, donc les instruments vont changer parce qu'on a besoin, vous l'avez entendu, de s'adresser au plus grand nombre, mais ce n'est pas des violons. Il va falloir des hautbois, il va falloir des trompettes, il va falloir des percussions, des tambours. Donc il va falloir l'harmonie, si vous voulez. Et tout ce que l'on a comme harmonie municipale héritée de la Révolution, finalement, ben c'est ça, c'est une tradition qui montre que musique et pouvoir sont en train de changer. C'est étonnant parce que Gossec, le protégé des aristocrates, c'est quand même lui qui va harmoniser la Marseillaise. Vous voyez, les choses se renversent à ce moment-là. On pourrait citer des milliers de choses comme ça. Je voudrais vous parler d'un autre compositeur qui s'appelle le Chevalier de Saint-Georges. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Le Chevalier de Saint-Georges, c'était un mulâtre. Oserais-je dire que ça passait pas inaperçu à la cour. Et il était, parce qu'il était aussi mulâtre, et puis c'était un homme très très intelligent, cultivé, un bon musicien, qui a écrit des quatuors, des symphonies intéressants, il avait sa place à la cour. Oh, c'est pas lui qu'on mettait en avant, mais, eh bien, lui, il a vraiment pris fait et cause pour la Révolution, au point que, non seulement il a écrit des œuvres révolutionnaire, mais surtout il s'est engagé au moment des guerres révolutionnaires. Il s'est engagé. Et le peu de fortune qu'il avait, il en avait un petit peu grâce à ce qui se passait avant 89, il l'a mise au service des pauvres. Et il est mort dans la pauvreté, je dirais de sa belle mort, il n'y a pas de belle mort peut-être, enfin bon, il est mort pendant la Révolution, pas du tout lié à une guillotine ou à quoi que ce soit, mais il est mort après avoir pratiquement dilapidé sa fortune, en quelque sorte, pour aider les nécessiteux et dans la cause révolutionnaire. Donc vous voyez comment une situation peut changer aussi complètement un homme. Alors, je ne voudrais pas être trop long, j'avais prévu de vous parler de mille autres choses, mais bon, je vois que le temps passe et s'égrène. Je voudrais quand même signaler que la Révolution a créé quelque chose, ou rappeler que la Révolution a créé quelque chose d'essentiel qui existe toujours de nos jours et qui est fondateur, c'est le conservatoire. Et la fondation du conservatoire, ça c'est vraiment passionnant parce qu'il existait une école royale de chant qui avait été créée pas longtemps avant la Révolution, en 1784. Mais c'est pas là-dessus qu'on va s'appuyer. À partir du moment où c'est royal, voilà, c'est fini, on ferme. Il n'y a plus d'argent, et puis voilà. Mais par contre, en 1795, après Thermidor, après la mort, la chute de Robespierre, des Robespierristes, en 95, la Convention approuve un décret pour la création d'un conservatoire. C'est compliqué, la Révolution française, on le sait bien. C'est pas parce que les Robespierristes ne sont plus là du tout qu'un certain nombre de mesures vraiment révolutionnaires ne vont pas être passées. Ça continue. Et qu'est-ce qui se passe avec ce conservatoire qui est créé en 1995? C'est intéressant parce qu'il est rattaché au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de former des musiciens pour aller à la tête des armées, entraîner les armées dans la guerre révolutionnaire et donner à la musique ce pouvoir de galvaniser les combattants de la liberté. Donc ça, c'est, on a oublié ça, hein, vraiment. Le conservatoire, il s'ouvre en octobre 1796. Il y a, et c'est assez intéressant, il y a 115 professeurs, 5 inspecteurs. Et le nom des inspecteurs, ce sont des grands compositeurs de l'époque. Il y a Cherubini, il y a Grétry, dont je vous ai parlé. Il y a Le Sueur, qui fera ensuite une grande carrière sous Napoléon. Il y a Méhul et il y a Gossec. Voilà, les 5 grands compositeurs qui, en 1796, sont chargés d'organiser un conservatoire. Et les 100 départements, puisque je vous rappelle qu'il y a 100 départements dans la grande France révolutionnaire de 96, sont amenés à chacun envoyer 6 élèves. C'est-à-dire qu'on... Voilà, il y a un quota par département pour que ce soit vraiment un conservatoire de musique nationale. Ça, je trouve ça vraiment très très intéressant et c'est évidemment le début d'une grande aventure. Puisqu'on parle de la Révolution, deux, trois éléments de plus, peut-être. Le premier, c'est que la Marseillaise, je ne sais pas si vous savez quand est-ce que la Marseillaise est devenue un chant officiel, enfin pendant la Révolution française, c'est pas du tout en 93-94, c'est le 14 juillet 95. Donc, un an pratiquement après la chute de Robespierre. Hein. Et puis, l'autre chose, c'est que je trouvais ça très intéressant. En janvier 1796, le directoire impose le saïra en ouverture de chaque spectacle théâtral ou de chaque opéra. On ne commence pas un spectacle sans le saïra que doit chanter toute la foule. Alors, je ne vous ai pas parlé des chansons parce que ça ne paraît pas le sujet que j'avais choisi globalement. Mais évidemment, pendant cette période révolutionnaire, il y a une foison, une floraison absolument incroyable des chansons. Je voulais juste illustrer, peut-être parce que je vois de façon terrible l'heure passer, je voulais illustrer cela, pas du tout par du Gossec, par du Méhul, mais par une œuvre de Beethoven, parce qu'on sait que la Révolution française a titillé pas mal de monde et pas mal de compositeurs. On sait que, vous savez peut-être d'ailleurs, que Beethoven, lui, avait composé sa 3e symphonie à la gloire de Bonaparte, mais quand il a appris que Bonaparte se faisait empereur, il a déchiré la dédicace. Mais Beethoven a été vraiment marqué parce que la 5e symphonie de Beethoven, par exemple, elle utilise un thème de Gossec composé pendant la Révolution française. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui se tissent là aussi. Et ce que je voulais vous faire entendre, c'est un petit extrait du Chœur des esclaves de Fidelio. Dans son opéra... en 1810, qui s'appelle Léonore, est repris 4 ans plus tard sous le thème de Fidelio, Beethoven développe le thème de la liberté. C'est ça, c'est le problème de celui qui est emprisonné, Fidelio, par abus de pouvoir. Donc le thème du pouvoir et de la musique est au cœur de Fidelio. Et à un moment, on a ce cœur lumineux des prisonniers qui sortent et là est la vraie liberté. Thank you. essayer d'être extrêmement rapide parce que je ne voudrais pas qu'on complètement squeezer la fin de ce que j'avais pensé vous proposer, même si l'heure avance. Je vous ai mis après 1793 la terreur et rien d'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est qu'après la Révolution française, le thème de la Révolution française arrive dans pas mal d'œuvres. On a, je vous signalais Beethoven à l'instant, Schumann utilise dans une de ses ouvertures qui s'appelle Hermann et Dorothée la Marseillaise, mais ça c'est presque anecdotique. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est qu'au XIXe siècle, dans l'opéra, et au XXe siècle aussi, se développe le thème de la Révolution française. Et là, c'est la terreur et rien d'autre. C'est-à-dire que mise sur scène, la Révolution française est toujours assimilée à la guillotine. C'est toujours une histoire absolument terrible qui fait dresser les cheveux sur la tête et qui donne la chair de poule, que ce soit avec Thérèse de Massenet, elle finit, la pauvre Thérèse, à la guillotine, que ce soit avec André Chénier de Giordano, le poète finit à la guillotine, que ce soit avec Marie-Victoire de Respighi, on a complètement oublié, ben ça se termine, bon, voilà, ou que ce soit beaucoup plus tard, en 1957, avec Dialogue des Carmélites, une œuvre tellement remise au goût du jour depuis quelques années, et vous en entendrez sûrement parler si vous écoutez un peu l'actualité musicale, puisqu'il va y avoir une grande production des Dialogues des Carmélites à la fin de l'année au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. À nouveau, on monte cette œuvre-là sans cesse. Ça se termine par, non pas un coup de guillotine, mais ce sont toutes les Carmélites qui passent les unes après les autres à la guillotine. Et on entend à la fin le couperet de la guillotine qui tombe à chaque fois. Donc, l'image obligatoire pour l'opéra, l'image de la Révolution, c'est celle-là. Il n'y a pas de salut, la Révolution, c'est la terreur. Et ça, c'est un peu lourd, on va dire, pour rester nuancé. L'autre image, c'est Danton. On exalte Danton face au salaud de Robespierre. Et quand je dis ça, je pense à plusieurs choses. Il y a un opéra qui s'appelle La mort de Danton de Gottfried von Einem, qui est créé au Festival de Salzbourg en 1947. C'est ça. C'est la même chose que vous retrouvez dans le film de Vajda, hein, Danton de Vajda. Dans la chanson de Sardou, Danton, du début des années 70. Et alors, une anecdote, j'ai souvenir en 1998, je parle de la Coupe du Monde de foot, bon, d'accord, enfin, mais il y avait un grand concert au pied de la Tour Eiffel avec les trois ténors, ça vous dit quelque chose? Et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le titre, c'était La mort de Danton. Le compositeur, c'était le fils de Placido Domingo. Le chanteur, c'était Placido Domingo, qui chantait un truc à vous tirer les larmes, enfin, une mauvaise romance, et qui mettait en cause Robespierre. Et qu'est-ce que ça venait faire là? Ben, ça vient faire là que musique et pouvoir sont liés et qu'on a toujours intérêt à glisser un certain nombre de messages. Ces messages ne sont pas franchement pro-révolutionnaires. Hein, ou sous prétexte que Danton... Ben oui, Danton, c'est... de l'audace, d'accord. Enfin, quand même, il n'y a pas que ça chez Danton. Même si la Révolution est un bloc, Danton était quand même assez, comment dire, corrompu, c'est ça. Thank you. aller chercher, 15 ans après que Milton ait été réuni, ils sont allés rechercher la vraie Milton, celle qui a servi encore en 76 ans. Alors, du coup, je suis absolument confus, mais ça ne se fait pas, mais ma troisième partie sur les réflexions sur le gouvernement des hommes va être limitée à sa plus simple expression. Quand même, juste en introduction, je voulais citer ce qui se chante dans la Clémence de Titus de Mozart. La Clémence de Titus, 1792. Il y aurait mille choses à dire sur cette œuvre et sur Mozart en lien très direct avec ce qui se passe dans l'Europe de l'époque et la Révolution française. C'est comment un roi peut-il être clément ? Voilà ce qu'il dit à l'adresse de l'empereur des Habsbourg, de l'empereur d'Autriche. La clémence de Titus, en montrant ça, il veut faire comprendre à son commanditaire, l'empereur, qu'il faut peut-être faire attention au peuple. Et il dit... Je ne veux point d'une foi qui soit le fruit de la terreur. Alors, je vous ai noté trois opéras qui me semblent vraiment des réflexions sur le gouvernement des hommes et que je vous incite à aller entendre si vous ne les connaissez pas. Le premier, c'est Don Carlo de Verdi, avec au début du dernier acte de Don Carlo de Verdi, le grand monologue de Don Carlo, qui s'interroge. Il s'interroge sur quoi ? Sur le fait que... qu'est-ce que c'est que le pouvoir, finalement ? Lui qui a emprisonné son fils Philippe II, son fils... Je reviens. Je suis désolé parce que je crois que j'ai fait un lapsus. C'est le grand monologue de Philippe II d'Espagne, qui s'interroge parce que son fils Don Carlo a pris les armes contre lui pour défendre la liberté des Hollandais, du peuple des Pays-Bas. Et donc il se dit, mais j'ai emprisonné mon fils à cause de ça, mais où est mon pouvoir ? Quel pouvoir est-ce que j'ai ? Alors que moi-même, je ne sais pas qui je suis dans l'amour que me porte ma femme. Enfin, il y a toute une réflexion qui mêle l'intime et le politique. Et ça, c'est vraiment... très très profond, et quand vous allez du côté des opéras de Verdi, vous vous apercevez qu'il est toujours ancré dans cette problématique, le rapport entre l'individu et l'histoire, l'individu et le pouvoir. L'autre cas, c'est la tétralogie de Wagner. Là, soit on en parle pendant 10 heures, soit j'en dis deux mots. Eh bien, je vais en dire deux mots. C'est quoi la tétralogie de Wagner ? C'est l'histoire d'un emprunt immobilier qui a mal tourné. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi ça se passe mal ? Pourquoi il y a tellement de catastrophes ? Ça commence comment ? Parce que c'est aux origines qu'il faut voir les choses. Ça commence simplement par le fait que Wotan, pour construire son Valhalla, son grand palais des dieux, son immense palais richissime du surpuissant, il n'a pas assez d'argent, donc il fait appel à deux géants, Fasolt et Fafner, en disant « Bon, vous me construisez ça et moi je vous paye après. » Oui, mais au moment de payer, il faut qu'il aille piquer l'or du Rhin qui lui-même avait été piqué, etc. Donc c'est vraiment un problème d'emprunt immobilier. Donc, allez relire ça, la tétralogie, à cette lumière-là, vous verrez à quel point c'est d'actualité. Et à quel point on est au cœur du capitalisme. Vraiment. Et puis enfin, je terminerai sur un opéra que vous ne connaissez peut-être pas du tout, Gloriana de Britaine.
On a jusqu'à 40. C'est 30 officiellement, mais entre des 20 jusqu'à 40, parce que là, c'est
peut-être... Oui, mais vous avez peut-être des questions. On m'avait dit une heure et des questions, une demi-heure. Alors, si j'ai un petit peu de temps, je prends quelques petites minutes pour Gloriana de l'Italie.
Oui, oui.
Vous ne le connaissez pas, Gloriana ? Si ?
Non ?
Non. Opéra extraordinaire. Musicalement, ce n'est pas toujours réussi, mais c'est absolument incroyable. C'est quoi cet opéra ? Vous voyez, 1953. Alors, imaginez la scène. Vous avez Benjamin Britten, compositeur d'opéra britannique, qui a quand même refusé de faire l'armée qui est parti aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était, on pourrait presque dire déserteur, si vous voulez, enfin objecteur de conscience, excusez-moi. Mais je dis déserteur parce qu'actuellement, là, c'est un anniversaire Britain, là, cette année, vous avez des Anglais dans les journaux anglais qui disent que Britain n'est pas un vrai Britannique parce qu'il a été déserteur, il est parti au moment de la guerre, juste avant, il a refusé de faire son service militaire. Un homosexuel. À l'époque, on n'est pas dans le mariage gay, hein, même si on est en Angleterre. Bon. Britten, un compositeur extraordinaire d'opéra qui, dès qu'il revient en Angleterre, pendant la guerre d'ailleurs, mais avec Peter Grimes et les autres opéras, devient un compositeur extrêmement célèbre. Célèbre là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une jeune dame qui s'appelle Elisabeth, qui va devenir reine, qui s'appelle Elisabeth II à partir de 1953, enfin 52 à la mort de son père, mais officiellement les grandes cérémonies c'est juin 53, qui aime la musique de Britten. Donc pour son couronnement, elle commande à Britten un opéra. Mais n'imaginez pas que pour le couronnement de la reine Elisabeth en 1953, on se contente de commander un opéra. Elisabeth II commande mais un nombre incroyable d'œuvres musicales. Musique et pouvoir. Commande. Et le cas de Gloriana est passionnant. Vous avez toute une sorte de mise en abîme comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Gloriana, c'est le surnom qui était donné à Elisabeth Ière. Gloriana, si vous aviez suivi l'année dernière le jubilé avant la Coupe du Monde de foot, il y avait le jubilé d'Elisabeth II. Elisabeth II, sous la pluie, avait traversé Londres sur la Tamise, sur un bateau qui s'appelait Gloriana. Le rapport à Elisabeth Ière et le rapport à l'opéra de Britten. Parce que donc, ce qui est fascinant avec cet opéra, en dehors de sa musique et de son thème, j'y arrive, c'est que Elisabeth II demande à Britten de lui proposer un sujet. Il lui dit, ben voilà, pourquoi pas Elisabeth Ière. C'est une très bonne idée. Et ensemble, ils travaillent. Ensemble, Elisabeth II et Britten travaillaient ensemble la partition et le livret. Il y a 60 ans. C'est absolument incroyable. Et dans l'opéra, qu'est-ce qui se dit? Eh bien, là, vraiment, c'est une réflexion sur le gouvernement des hommes. Vraiment. C'est-à-dire qu'on imagine difficilement, il paraît que l'accueil a été extrêmement froid, évidemment. La première de l'opéra, c'était toutes les têtes couronnées du monde, les présidents, les plus hauts dignitaires de la planète qui étaient là, les grands noms de l'aristocratie britannique. Et sur scène, qu'est-ce qu'ils voyaient? Eh bien, à la fin, ils entendaient une reine qui s'interrogeait sur son pouvoir, sur ce qu'elle avait à faire là, sur ce qu'elle était en train de faire, parce que toute l'histoire de Gloriana, c'est l'histoire de Roberto de Véreux, qu'avait mis en musique Donizetti, mais pas du tout à la façon Donizetti, qui déjà était très dramatique. Roberto de Véreux, c'était l'amant d'Elisabeth Ière, qui s'est révolté contre la couronne, qui a choisi, à un moment, il y a eu des choix politiques qui font que il a comploté, en quelque sorte, contre la couronne d'Elisabeth Ière, et Elisabeth Ière a été amenée à condamner à mort son amant. Donc, c'est toute cette tragédie personnelle qui est au cœur de l'opéra, et cet opéra se finit par un très grand monologue d'Elisabeth qui se pose la question, qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Au nom de quoi est-ce que j'ai le pouvoir de signer la mort de celui que j'aime? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le pouvoir? Et c'est ça, son monologue final.
C'est quelle époque, Elisabeth I?
Elisabeth Ière, on est à la charnière, à la fin du XVIe, tout début du XVIIe siècle. Donc, ce qui fait que dans sa musique, ça c'est aussi passionnant. Britten reprend des thèmes musicaux et des formes musicales de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui parlent aux Anglais, parce que c'est la musique anglaise, et puis c'est des gens qui ont une vraie culture musicale et qui la pratiquent. Et il remet ça avec cette problématique. Donc c'est pour ça que je voulais finir par cela, parce que ça me paraît extrêmement actuel et au cœur de cette problématique musique et pouvoir que j'essayais de vous, comme ça, sillonner, de vous donner l'envie d'approfondir et peut-être d'écouter davantage, parce qu'on n'a pas écouté beaucoup de choses, ça j'en conviens. Mais regardez, vous allez avoir le cri déchirant d'Élisabeth Ier, qui chante, imaginez-vous, il y a 60 ans, qui chante devant Élisabeth II, après que Britten ait fait écouter Élisabeth ses esquisses, et soit venue chez la reine, la future reine, en lui disant « Bon, voilà, j'envisage de faire telle et telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, on est avec un certain nombre de questions.
Which the greatest princes cannot at their will subdue. The one is over fame. The other is over a great mind. Surely the world is now, I hope, reasonably satisfied.
S'interroge vraiment, c'est vraiment, mais c'est ça, c'est ce moment, mais c'est quoi ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une force d'âme, mais ça sert à quoi? Et vous avez, au moment le plus glorieux du couronnement d'Élisabeth II, sur scène, Élisabeth Ière qui dit, je montre tous mes doutes et tous les questionnements liés au pouvoir. Bah franchement, c'est assez fort.